Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. L'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, il y a 5 ans, nous écouterons l'un des survivants du Bataclan et les répétitions à la Philharmonie de Paris pour le concert commandé par la mère d'une victime. Une première médicale en France, une greffe pulmonaire sur un malade du Covid dont les poumons avaient été quasiment détruits par le virus. La bataille des restaurateurs pour garder le bénéfice de la clause pandémie que les assureurs veulent annuler. Le démantèlement par la gendarmerie d'un réseau de collecteurs de fonds pour le trafic de drogue qui brassait 90 millions d'euros par an. Aux États-Unis, la Chine, à son tour, félicite Joe Biden avec une semaine de retard. Les agences américaines chargées de la sécurité des élections affirment n'avoir aucune preuve d'un piratage de la présidentielle. Invité d'Europe Midi, le géographe Christian Grataloup, qui publie un atlas historique de la France. Toute l'histoire, les peuplements, les guerres, les modes de vie, les monuments, racontés en 320 cartes de France. Passionnant et jamais vu.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nous n'oublierons pas le 13 novembre 2015, 130 vies fauchées devant le Stade de France, à des terrasses de café et dans la salle du Bataclan, 350 blessés et des centaines de survivants marqués à vie. David Fritz Göppinger, photographe de 28 ans, a été l'otage pendant 2h30 des terroristes du Bataclan. Voilà 5 ans qu'il tente de remonter la pente.
Ces 5 dernières années, finalement, les moments cruciaux de ma reconstruction ont été des moments où j'ai dû attraper la joie, j'ai dû attraper cette chose qui est un peu indéfinissable finalement, mais qui est une certaine candeur qu'on a essayé de nous enlever le 13 novembre.
Et cette reconstruction, elle est aussi passée par un solide lien d'amitié qui s'est créé avec les ex-otages du couloir du Bataclan.
Alors c'est un groupe qui est hyper important, donc c'est les potages, parce qu'on est potes et otages. Et c'était ça le plus important finalement, c'était vraiment de créer une relation forte sur ça et de créer de nouveaux souvenirs bien plus forts et bien plus humains en fait. Ce soir-là, au Bataclan, on s'est tous serré les coudes et qu'aujourd'hui, on a du mal à se lâcher les uns des autres. Aujourd'hui, ça va. Ce qui peut rester du trauma du 13 novembre et aussi une forte sensibilité au surgissement des actes terroristes. Je pense presque exclusivement à l'attentat de Vienne. Les images des médias m'ont assez rapidement renvoyé à ce qui s'est passé le 13 novembre à Paris, avec ces rues baignées dans une lumière jaune. Enfin, là, je suis photographe, donc tout ce qui est graphique, je le capte assez bien. C'est beaucoup de souffrance, mais finalement non plus pour moi-même, parce que je sais que ce que j'ai vécu reste au 13 novembre, reste au Bataclan, et voilà. Mais plus pour ces gens qui, eux, viennent de subir cet acte-là, et aussi, finalement, ils en sont, leur 14 novembre vient de commencer, quoi.
David Fritz Göppinger, propos recueilli par Gladys Lafitte, il vient de publier « Un jour dans notre vie » chez Pygmalion. Ce soir, un concert de l'Orchestre de Chambre de Paris enregistré cette semaine sera diffusé à 20h30 sur le site web de la Philharmonie de Paris. Une création originale commandée par la mère d'une victime du Bataclan, Angèle Châtelier.
Sur la scène de la Philharmonie, 43 musiciens de l'Orchestre de Chambre de Paris. La voix de la soliste Isabelle Druet adoucit les notes dissonantes et inquiétantes jouées par les cordes. Cette œuvre originale du compositeur Béchara El Khoury est une commande de Louise Albertini. Son fils, Stéphane, est mort au Bataclan. Elle voulait une œuvre en son hommage, même si nous sommes loin du rock énervé des Eagles of Death Metal qui jouait ce soir-là.
Je ne serais pas allée au concert pour écouter une œuvre de Béchara El Khoury. Mais en même temps, c'est une musique contemporaine qui est projetée dans l'avenir, qui en même temps peut être entendue par tous.
Et sans parole, une volonté du compositeur, souligne Bruno Messina, médiateur de la Fondation de France qui a chapeauté le projet.
On ne peut pas dire ce drame. En fait, il y a quelque chose d'indicible. Et c'est pour ça que la musique vient s'y substituer. Et c'est pour ça que la voix ne porte pas de texte, pour que chacun, finalement, y mette ses mots à soi.
Une symphonie de 35 minutes au nom équivoque. Il fait novembre en mon âme.
Reportage d'Angèle Châtelier pour la menace djihadiste. La France revendique ce matin la mort au Mali d'un haut responsable lié à Al-Qaïda, Baag Moussa, et considéré comme responsable de plusieurs attaques. Il était, semble-t-il, chargé de la formation de nouvelles recrues. On y reviendra avec Didier François à 13h. Europe 1, il est 12h35. Le Covid avec une première en France, une greffe pulmonaire réalisée sur un patient dont les poumons avaient été quasiment détruits par la maladie. Victor Delande, opération réalisée par l'hôpital Foch à Suresnes.
Oui, ce patient avait été hospitalisé au CHU de Lille. Il a passé plusieurs semaines dans le coma, sous ventilation respiratoire. Les médecins ont ensuite tenté l'oxygénation extracorporelle de son sang, mais rien n'y a fait. Son état s'est dégradé au fil des semaines. Seule solution pour le sauver, la transplantation pulmonaire. Comme il n'avait pas de comorbidité, l'opération était possible. Elle a eu lieu le 1er novembre dernier et ça s'est très bien passé. Le patient va bien, comme l'explique le professeur Édouard Sage, chirurgien thoracique à l'hôpital Foch de Suresnes.
On s'attendait à ce que ça puisse être plus difficile que ça, mais ses deux poumons fonctionnent parfaitement, ça c'est une première victoire. La deuxième, c'est qu'on est face à un malade qui a eu beaucoup de semaines de réanimation avant, donc il a toutes les conséquences de ça aussi engendrées, auxquelles on y rajoute une intervention extrêmement lourde, donc c'est sûr qu'il va bien, mais il va falloir beaucoup de récupération et plusieurs semaines encore d'hospitalisation, pour pas dire plusieurs mois avant qu'il se rétablisse.
C'est une première en France, pas dans le monde. Il y a déjà eu des greffes similaires sur au moins un patient aux États-Unis. On recense aussi un cas en Chine. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'opération reste exceptionnel, mais selon le chirurgien qui a réalisé cette prouesse, c'est une arme supplémentaire et donc une source d'espoir pour les patients qui font des formes très graves du SARS-CoV-2.
Victor Delande, pour les mesures de confinement, rien ne bougera avant le 1er décembre, a confirmé Jean Castex. Les commerçants espèrent pouvoir tenir jusque-là. Pour les restaurateurs, les perspectives de réouverture sont plus lointaines et ils doivent se battre pour garder le bénéfice de la clause pandémie que leurs assurances ont décidé unilatéralement d'annuler, Clément Le Saffre.
Oui, en fait, tout a commencé par un courrier envoyé par les assureurs aux restaurateurs ces dernières semaines. À l'intérieur, un avenant à leur contrat qui exclut l'indemnisation pour cause de pandémie. Et en cas de refus, le contrat est résilié d'office par l'assureur. Il faut préciser que ça concerne 7% des restaurateurs, ceux dont le contrat d'assurance mentionne ce risque de pandémie. Ça fait quand même une dizaine de milliers d'établissements en France. Parmi eux, le chef étoilé Yves Candebordes, il accuse les assureurs de manquer à leur devoir.
Le fait de faire cet avenant, ils sont en train de justifier que cette clause, elle est réelle. Moi, le signer, j'ai envie de vous dire, dans l'avenir, oui, je vais être dans l'obligation de le signer parce que toutes les assurances vont me l'imposer, mais que les assurances prennent responsabilité et d'assumer une clause qu'on avait signée dans nos contrats.
Alors les assureurs sont mis en cause, mais ils se défendent. Ils ne font qu'appliquer une recommandation de leur autorité de régulation, disent-ils. Et ils ont une pression supplémentaire à partir de l'année prochaine. Eux-mêmes ne seront plus assurés pour les contrats incluant une indemnisation en cas de pandémie par ceux qui les assurent, les réassureurs. Le délégué général de l'Association des professionnels de la réassurance que j'ai eu en ligne me l'a expliqué. On ne peut pas couvrir tout le monde à l'échelle mondiale. On n'en a pas les moyens. Les restaurateurs ont donc jusqu'au 31 décembre pour accepter ou refuser cet avenant. Mais quel que soit leur choix, le résultat sera le même. Tous les assureurs sont sur la même ligne en France. L'an prochain, la pandémie ne figurera sur aucun contrat.
Eh ben, Clément Le Saffre, les élections régionales et départementales de mars devraient être reportées à la fin juin. C'est la recommandation du rapport de Jean-Louis Debré.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Des chiffres qui donnent le vertige et qui montrent des fortunes d'argent sale générées par le trafic de drogue. Le réseau de collecteurs de fonds qui vient d'être démantelé par les gendarmes brassait, d'après leurs estimations, quelque 90 millions d'euros par an. 18 suspects ont été arrêtés. Guillaume Biais.
Oui, c'est colossal. C'est bien pour ça que l'objectif des gendarmes était de taper au portefeuille des trafiquants, comme ils disent, faire tomber ce réseau de blanchiment. Des collecteurs de fonds qui récupéraient l'argent du trafic de drogue un peu partout en France, transportés par camion vers le Maroc, raconte le colonel Laurent Le Saffre, qui commande la section de recherche de Lyon.
Le trafic était organisé autour d'un transporteur routier qui utilisait une flotte de camions commerciaux qui transportaient d'autres marchandises. Et l'argent était donné aux conducteurs de ces camions qui rassemblaient l'argent et le transportaient en toute discrétion. Nous avons estimé que ce trafic générait à peu près un flux de 90 millions d'euros sur une année.
Des sommes astronomiques en petites coupures renvoyées au Maroc pour payer les producteurs de cannabis. L'affaire a mobilisé une cinquantaine d'enquêteurs à temps plein pendant un an et demi. Et en plusieurs coups de filet, les gendarmes ont arrêté au total 18 suspects et saisi plus de 4 millions d'euros en espèces et en biens immobiliers. Et contrairement à la drogue qui est systématiquement détruite, là, les bénéfices du trafic saisi sont placés en attendant le procès. Ils finiront dans les caisses de l'État après condamnation.
Guillaume Biais, merci. Nous respectons le choix du peuple américain. américain. Ainsi parle la diplomatie chinoise une semaine après les résultats de la présidentielle. Pékin adresse officiellement donc ses félicitations à Joe Biden. Le président élu, conforté un peu plus encore ce matin par le dépouillement définitif de l'Arizona, état qui bascule chez les démocrates pour la première fois depuis 96, conforté aussi par un communiqué commun des agences chargées de la sécurité des élections. En résumé, Rémi Bossaron, aucune preuve de triche.
Oui, cette élection a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis. Voilà la conclusion des agences qui ont donc produit ce rapport. Elles n'ont trouvé, disent-elles, aucune preuve d'un système de vote qui aurait effacé, perdu ou changé un bulletin. Réponse directe à Donald Trump, qui hier encore sur Twitter, évidemment, accusait un système de vote d'avoir effacé 2 700 000 bulletins en sa faveur. Ce rapport est d'autant plus contrariant pour lui que parmi les agences signataires, on trouve une agence nationale, la CISA, qui dépend de son administration, mais le président sortant pourrait bientôt répliquer à sa façon. Selon les médias américains, il envisage tout simplement de licencier le patron de la CISA.
Bah oui, c'est plus simple.
Aucun signe d'assouplissement, donc, malgré la mise en garde hier de plus de 150 anciens responsables américains. Ils estiment, anciens hauts responsables, dont un ancien dirigeant de la CIA, ils estiment que son refus de reconnaître sa défaite représente un risque grave pour la sécurité nationale. Mais la page Trump est encore loin d'être tournée pour certains républicains. La porte-parole de la Maison-Blanche le prédisait hier sur Fox News. Selon elle, Donald Trump s'imposera encore comme le leader de son parti pour plusieurs dizaines d'années.
Dizaines d'années. Nous verrons et vous reviendrez. Rémi Bossaron, merci. En rugby, le match France-Fidji qui devait se jouer dimanche est reporté à cause de plusieurs cas de Covid chez les joueurs fidjiens. Un coup d'œil sur le temps à présent avec vous, Anissa Haddadi. Une France coupée en deux.
Oui, avec cet après-midi, Patrick, sur la moitié nord, un ciel couvert de la Bretagne jusqu'aux Ardennes, en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, la région parisienne. Et bien, dans toutes ces régions, le ciel est gris toute la journée avec des averses. Alors, des petites averses, mais ça va ponctuer comme ça votre journée. Attention, dans le Val-de-Saône, les brouillards sont tenaces et la visibilité est parfois réduite. Au sud de la Loire, alors là, c'est un tout autre temps, beaucoup plus printanier, avec du soleil. Dans la vallée du Rhône, le vent de sud se lève, il souffle légèrement. Et puis au bord de la Méditerranée, nous avons toujours pas mal de nuages et quelques gouttes. Ce sont les entrées maritimes qui sont tenaces dans ce secteur, sur les Bouches-du-Rhône et le Var en particulier. Les températures, elles sont toujours au-dessus des normales de saison, avec 14 degrés à Annecy cet après-midi, 15 à Paris, Belfort et Lille, 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Lyon, 20 degrés à Bordeaux et Marseille pour la maximale.
Merci beaucoup Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
320 cartes de France qui racontent des milliers d'histoires, tout ce qui a construit notre pays au fil des siècles. C'est l'Atlas historique de la France, dont le maître d'œuvre, le géographe Christian Grataloup, sera notre invité dans un instant.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Christian Grataloup.
Bonjour Patrick Cohen.
Quand je vous ai reçu l'an dernier pour votre formidable atlas historique mondial, j'avais prédit qu'on dirait bientôt le Grataloup, comme on dit le Larousse ou le petit Robert. Voici donc un deuxième Grataloup, cet atlas historique de la France, 320 cartes de France qui racontent la façon dont s'est construit notre pays, de la France d'avant la France, hein. Il y a même des cartes sur les sites préhistoriques jusqu'au début du 21e siècle, avec des thèmes qu'on avait, je crois, jamais vus en cartes. La peste de Marseille en 1720, l'affaire Dreyfus, les destructions de la Seconde Guerre, etc. On est surpris et intéressé à chaque page. Quelle est la principale difficulté d'un tel travail ? Récupérer et croiser des données ou rendre cette histoire visible et lisible ?
Alors, la principale difficulté, c'est l'histoire de la France. C'est-à-dire de concevoir quelque chose qui puisse permettre à tout un chacun de reconstruire son histoire. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 1000 histoires qui étaient présentes. Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que le moule unique, le roman national, on peut le retrouver. Il y a tous les éléments pour. On a Vercingétorix et Jeanne d'Arc, Napoléon et De Gaulle. Il n'y a pas de problème. Mais on peut aussi construire tout un tas d'autres histoires, les compléter, de manière à avoir une histoire commune et plurielle. Alors c'est effectivement de construire une histoire de la France, ce qui fait que il y a quelques années, Duby par exemple, il y a 40 ans, avait fait une histoire de la France, il avait bien dit de la et pas de France, qui commençait au Xe siècle. Ouais. Ah, c'était, oui. c'était ça qui était nouveau, parce que c'est vrai qu'avant le XIIIe, il est difficile de parler d'histoire de la France. C'est même vraiment au XVe qu'on peut vraiment dire, là, la France existe. Oui, il y a un État français. Il n'y a pas encore vraiment une société française, mais il y a un État français. Tandis qu'en même temps, il faut tenir compte de tous les patrimoines que l'on va réutiliser pour construire cette histoire de la France. Et c'est vrai que, de ce point de vue-là, on est peut-être plus apaisé. On a pu mettre aussi bien les Gaulois que les Mérovingiens ou Charlemagne, sachant que ce n'est pas la France, que c'est de ces différentes sociétés dont peut procéder la France.
Voilà, il y a les premiers sites paléolithiques. Il y a des cartes très attendues, mais qui ne sont pas moins indispensables. La guerre de 14, les guerres napoléoniennes. Mais grâce à vous, on comprend les mouvements de la guerre de 100 ans, ce qui n'est pas simple. On mesure le choc de la grande peste de 1347. On voit la première mondialisation avec les expéditions du XVIe siècle, les circuits de la traite et de l'esclavage. Sur certains thèmes, vous êtes vraiment pionnier. Il n'y a jamais eu de cartes sur certains des thèmes que vous avez traités.
Il y a beaucoup de cartes qui sont tout à fait nouvelles, soit parce que c'est des thèmes que les historiens n'avaient pas beaucoup travaillé. Par exemple, la peste de Marseille est liée vraiment à un travail de thèse qui a été fait.
Alors ça, c'est formidable parce qu'on effectivement les morts à Marseille, à Toulon, le mur qui a été érigé.
Le mur qui entoure Marseille, les murs plus loin, en particulier le mur de la peste qui entoure le Comtat Venaissin qui existe toujours aujourd'hui.
C'est les papes qui avaient fait faire ça, non ? Non, le mur.
C'est un mur qui entoure le Comtat Venaissin, qui n'était pas la France, c'était le Vaucluse actuel, qui était le territoire pontifical.
Voilà, les papes.
Et ils se sont protégés.
Exactement.
C'était pas ça, le virus est passé quand même.
Hein. Oui.
Mais il y a quand même une volonté de se protéger, qui a quand même empêché la peste de devenir européenne.
Absolument.
C'est Wuhan, si vous voulez.
Donc voilà, donc tout ça, ça ne s'était jamais
traduit en cartes. L'affaire
Dreyfus,
c'est aussi tout à fait nouveau de penser, parce que il y a des moments de fondateur sur la centralisation Louis XIVienne, sur les massifs de granit que Napoléon a voulu construire, les préfectures, les lycées, le code civil, et puis sur les fondements de la Troisième République, donc l'affaire Dreyfus entre autres, mais aussi les lois de 1901-1905, la querelle des inventaires, c'est des choses sur lesquelles... Il fallait revenir parce que ce sont des éléments fondateurs et qui sont généralement pas cartographiés.
Et ce n'est pas seulement une histoire politique, c'est un pays qui change et se construit, qu'on observe au fil des pages. Par exemple, la construction du réseau routier au XVIIIe siècle, 50 ans de travaux avant la Révolution. En 1715, il faut 15 jours pour aller de Paris à Bordeaux. En 1789, 5 jours seulement.
Eh oui, les progrès ont commencé d'abord dans les techniques traditionnelles. C'est vrai dans l'industrie pour le textile, et non pas la métallurgie. C'est vrai dans les transports. Avant les voies ferrées, il y a eu l'amélioration des routes et des canaux. Et le XVIIIe siècle, avec les ponts et chaussées, la création de l'école, du corps des ingénieurs, la France a été tout à fait pionnière et a eu un réseau de routes qui ont été formidables et qui d'ailleurs ont ensuite retardé l'arrivée des autoroutes au milieu du XXe siècle.
On voit le développement de l'industrie, celui du tourisme, une carte étonnante sur la menace des loups sur le territoire, les loups qui ont dévoré des milliers d'hommes, d'humains jusqu'au 19e siècle.
Là aussi, il y a une recherche derrière, effectivement, c'est les loups ont été un risque, un danger, et la carte est très surprenante parce que ce n'est pas là où on l'attend, c'est-à-dire que ce n'est pas là où il y a des loups aujourd'hui.
Ils étaient aux portes de Paris, entre autres.
Ah, tout à fait, oui.
Dans la
chanson d'Adjani.
Là, ils ne sont pas encore complètement rentrés dans Paris, mais par exemple, sur la Beauce, le sud-ouest du bassin parisien est une zone infestée de loups. Et beaucoup d'hommes ont été tués ou dévorés par les loups.
Les loups sont d'ailleurs en général, s'attaquent pas aux hommes parce que c'est dangereux, mais ils peuvent y prendre goût.
Oui, ils profitent des guerres.
Dès qu'il y a des guerres et des disettes et qu'il y a des cadavres à disposition, oui, les loups deviennent anthropophages.
La fuite à Varennes fait l'objet d'un graphique plutôt que d'une carte avec le trajet de Louis XVI et celui de ses poursuivants. C'est assez
amusant. Il y a du suspense.
Absolument. On regarde avec intérêt quelles ont été les terres d'immigration dans les années 30. C'est pour beaucoup le pourtour méditerranéen, et dans les années 80, c'est très différent.
Tout à fait. On a insisté sur l'histoire de la population française. Il y a d'ailleurs un grand graphique récapitulatif au début de la troisième partie qui n'est plus le récit historique cette fois-ci, où on a essayé de bien construire la population avec ses apports constants. Et je présente d'ailleurs publiquement mes excuses parce que les Polonais dans les années 20 ont disparu du graphique. Ils ont tout de suite réagi, je peux vous dire.
Ah bon ?
Et j'en suis meurtri parce qu'il y était au départ. Hein. Je ne sais pas quelle bourde on a fait, mais bon. Donc j'en suis désolé. Mais en dehors de cet apport, on voit tous les apports qu'il y a pu y avoir des peuples et qui constituent le peuple français.
Absolument. Il y a les cartes électorales, vous en avez parlé, de De Gaulle à Mitterrand, celle de mai 68, une carte des fromages, des produits laitiers, et puis on voit aussi, ça c'est dans le passé, quelle était la France du beurre, de l'huile et du saindoux.
Oui, alors parce que la troisième partie est une partie qui n'est pas au passé, si j'ose dire, c'est au présent.
Passé,
voilà. On va voir comment on utilise le passé. Entre autres, par exemple, il y a les discours des présidents de la République qui ont des références historiques. Ça ne cesse de se développer d'ailleurs. Ce qu'on voit, c'est une inflation dans ce domaine. Mais de voir comment les Français se rattachent à leur histoire. Alors, il y a des choses qu'on pouvait attendre, hein, comme la légende napoléonienne. Il y a les monuments classés, par exemple, y compris par le patrimoine mondial. Mais il y a aussi des pratiques qui sont parfois un peu curieuses. Par exemple, la dimension historique des sites touristiques. Hein, c'est les vieux sites touristiques qui deviennent à leur tour des objets d'histoire et de mémoire historique. Les stades, on a tenu à mettre les stades historiques, type Geoffroy Guichard.
Et la pratique sportive en France.
Donc, qui sont des lieux d'histoire. Et donc, de voir comment les Français construisent leur rapport au passé. Et ce sont des rapports multiples.
Les lieux de mémoire. Et pour ce qui est des monuments historiques, on découvre, par exemple, moi ça m'a frappé dans cette carte, l'incroyable densité de monuments dans le Périgord, entre Cahors, Agen et Périgueux. C'est une zone qui concentre énormément.
Oui, et puis la préhistoire dope beaucoup le Périgord, si je veux dire, parce que la France a été un peu la patrie fondatrice de la préhistoire. Donc on a tôt et beaucoup cherché des traces du paléolithique, et on les a trouvées, d'où Cro-Magnon. Donc vous avez des grottes particulièrement célèbres en France, qui sont des hauts lieux, et toute personne qui s'intéresse à la préhistoire dans le monde se doit à un moment donné de faire le pèlerinage dans le Périgord.
Voilà, alors j'ai picoré cet atlas historique, enfin je l'ai picoré pour les exemples de cette interview. Est-ce qu'il y a une carte, Christian Grataloup, qui vous tient, une ou plusieurs, qui vous tiennent particulièrement à cœur?
Ah, c'est difficile que vous me demandez. J'aime beaucoup la double page consacrée à l'affaire Dreyfus, parce que c'était effectivement important, je crois, de montrer ce moment. Et c'est pas forcément évident.
Paris, voilà.
Voilà, pas forcément de le traduire en carte. Mmh. Or, effectivement, dès qu'on creuse, tout est spatial. Et donc, on a des lieux parisiens. On a bien sûr le bagne en Guyane. Donc, le voyage, les étapes de cela, le retour de Dreyfus. Donc, et puis surtout, les émeutes antisémites, les élections de députés antisémites qui se produisent dans ce contexte-là.
Le lycée qui est un foyer antisémite, qui est le lycée Jean-Baptiste Say, dans le 16e arrondissement de Paris, et toutes les cartes. C'est donc l'Atlas historique de la France, publié par les Arènes avec la revue Histoire. Mais on vous doit aussi un autre livre réjouissant, ce cabinet de curiosité, l'histoire du monde, chez Armand Collin, où on découvre des histoires qui sont liées à des objets et à la mondialisation. On découvre par exemple que le pouce-pouce a été introduit en Asie sous influence européenne, ou que l'anse de tasse a été inventée en Europe au XVIIIe siècle, etc., etc. Vous êtes un inlassable curieux.
C'est des petites chroniques. Je tiens plusieurs chroniques. Là, c'est celle de la revue La Géographie, la revue de la Société de Géographie. J'en tiens aussi dans la revue Carto, des petites chroniques qui racontent l'histoire mondiale à partir d'un petit objet. Le recueil que vous avez en main, là, commence par le trou de l'aiguille, le chat de l'aiguille.
Le chat de l'aiguille,
et
oui.
Effectivement, sans le chat de l'aiguille, pas de vêtements cousus, sans vêtements ajustés, pas de possibilité de passer par la Sibérie et donc pas de peuplement de l'Amérique. Voilà. Donc vous avez des petits, tout petites inventions, car ça date du paléolithique, grand effet.
Voilà, 1000 histoires avec vous, donc dans ce cabinet de curiosité de l'histoire du monde chez Armand Collin, et puis dans cet ouvrage qui, j'en suis sûr, va rester un ouvrage de référence comme l'Atlas mondial, l'Atlas historique de la France, publié aux Arènes. Merci beaucoup Christian Grataloup.
Merci
d'être venu
Cohen.
Nous voir. Merci.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Dans un instant, le 13h, d'autres informations, puis la France bouge. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end à l'écoute d'Europe 1.